grand angle.
C'est le grand angle de ce jour, la situation nationale et internationale vue par une figure de la vie politique française. Dominique Bussereau a été ministre tout au long du second mandat de Jacques Chirac. Il connaît aussi bien le Proche et le Moyen-Orient. Il a été un acteur important durant près de 50 ans de la vie politique française. Dominique Bussereau.
La situation internationale, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, les bruits de bottes autour de Taïwan. Donc on a une situation mondiale très très compliquée, très belliqueuse. Et en France, le climat est aussi belliqueux. La possibilité, malheureusement, qu'il y ait un deuxième tour entre l'extrême gauche et l'extrême droite existe. Je trouve que la droite et le centre, qui ont été mon camp politique durant près de 50 ans, sont foncièrement désunis, ont du mal à se mettre d'accord. Donc c'est une situation qui m'inquiète, comme je trouve aussi que le camp social-démocrate, qui a joué un rôle important avec le président Mitterrand, François Hollande, est lui aussi désuni et désorganisé. Donc c'est une situation favorable aux extrêmes et ça ne peut que qu'inquiéter tous les Français qui sont profondément républicains.
Comment vous l'expliquez justement, le fait que la situation soit aujourd'hui favorable aux extrêmes?
C'est une série d'événements politiques, l'élection d'Emmanuel Macron aurait pu permettre la création d'un grand bloc central, comme le fut l'UDF du temps de Giscard ou l'UMP du temps de Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy. Il a mis le souhait, a eu la volonté de ne pas véritablement organiser son camp politique. Donc on a un camp politique centriste central très désordonné, avec beaucoup de partis, avec beaucoup de candidats éventuels. Par ailleurs, le PS n'est plus que l'ombre de ce qu'il était également. Donc la même chose existe dans la gauche social-démocrate. Donc ça laisse un espace aux extrémistes. Et la conjonction d'élections ratées en 2022 et de l'épouvantable dissolution de 2024 a fait que les extrêmes trouvent leur terrain de chasse au milieu de tout ça.
Et vous appelez aujourd'hui les électeurs à la raison, si je comprends bien votre propos.
J'appelle surtout les états-majors politiques à la raison. La gauche à s'unir en dehors de l'extrême gauche et de manière intelligente et républicaine, la droite et le centre à s'unir et d'essayer d'avoir des schémas dans lesquels le Rassemblement national ou LFI ont peu de chances de se retrouver au deuxième tour. Malheureusement, aujourd'hui, mais nous sommes heureusement qu'en juin, il y a moins d'un an d'élection présidentielle, nous n'en avons pas pris le chemin.
Cette multiplication des candidatures à droite et au centre, Bruno Retailleau, Gabriel Attal, et j'en oublie certainement bien d'autres au sein de la droite et du centre, est-ce que cela marque une forme d'incompréhension de ce qui se passe en ce moment?
C'est le fruit de la désunion parlementaire. À partir du moment où l'Assemblée est complètement... Moi, j'ai connu une Assemblée avec des grands blocs. Il y avait une majorité, il y avait une opposition, il y avait une cohabitation, il n'y avait pas de cohabitation. Ça fonctionnait de manière républicaine, même si on se combattait, je dirais, de manière normale et courtoise. Aujourd'hui, quand je vois certains épisodes violents sur les bancs de l'Assemblée, certains discours violents, certains propos racistes, quand je vois l'émotion très forte de notre pays après une catastrophe comme celle de la mort d'une petite fille,
Liana,
je pense que le pays est malheureusement en état de désunion et qu'il va être très difficile pour les gens raisonnables de se retrouver ou de retrouver leurs esprits d'ici le printemps prochain. Je le souhaite profondément, qu'il y ait un candidat de la droite et du centre qui fasse l'union, que le Parti Socialiste également soit capable de s'entendre sur une candidature d'un social-démocrate de qualité, et qu'on puisse, par ces deux candidatures, échapper à un deuxième tour entre les extrêmes.
Ce deuxième tour entre les extrêmes, une victoire de Marine Le Pen ou Jordan Bardella, ou une victoire de Jean-Luc Mélenchon, quelle conséquences cela aurait pour le pays?
Je crains la mise en œuvre de leur programme, que je ne partage ni le programme de l'extrême droite ni celui de l'extrême gauche. Je crains que si l'extrême droite l'emportait, l'extrême gauche cherche une revanche dans la rue, et peut-être également vice-versa. Donc, il est encore temps de se retrouver entre démocrates, républicains. Un candidat socialiste modéré pourrait avoir des suffrages de gens de la droite et du centre. Une candidature de la droite et du centre pourrait avoir des suffrages de sociodémocrates, et qu'on essaye qu'un des deux camps républicains, pour ma part je préférais que ce soit le camp du centre et de la droite, mais peu importe, soit présent au deuxième tour et éviter cet affrontement mortifère.
C'est intéressant ce que vous dites. Hein. Vous souhaitez qu'un candidat républicain, dites-vous, soit présent au deuxième tour. Devrait-il y avoir une candidature au sein du bloc dit républicain? Pour le moment, il y en a plusieurs. Il y en a au centre et à droite, on les a cités. Il y en a à gauche, notamment Karim Bouamran, le maire socialiste de Saint-Ouen. Faut-il une figure du cercle républicain?
On n'y arrivera pas. Enfin, je veux dire, d'abord, à gauche, la candidature de Karim est la dernière du jour. Il y en aura peut-être d'autres d'ici là. Il y a celle de Jérôme Guedj, on voit bien Buxman, on voit bien François Hollande. Enfin, beaucoup de gens rêvent d'incarner les couleurs de la social-démocratie. Il faut au moins qu'il y ait au premier tour une candidature unique des sociaux-démocrates et une candidature unique des centristes et des libéraux et du Parti républicain de Bruno Retailleau. Voilà, donc si on n'arrive pas à ça, on n'atteindra pas la barre du deuxième tour. Rappelez-vous que la dernière fois, Jean-Luc Mélenchon, en 2022, malgré la guerre en Ukraine qui donnait un avantage au président de la République, n'est pas passé loin du deuxième tour. C'est Valérie Pécresse qui en a fait les frais parce que beaucoup de gens de droite ont préféré voter tout de suite pour le président Macron plutôt qu'avoir un deuxième tour Mélenchon-Le Pen. Mais ça peut cette fois-ci se produire. Donc, extrême attention, extrême vigilance, extrême besoin de raison dans un univers de déraison.
Jean-Luc Mélenchon, qui est régulièrement sous-estimé à quelques mois de l'échéance présidentielle, vous l'avez souligné. Au début de votre intervention, lorsque je vous interrogeais sur la vie politique aujourd'hui, vous avez commencé votre réponse par évoquer la situation au Proche et au Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre vision, justement, de cette situation aujourd'hui au Moyen-Orient, vous qui avez exercé des responsabilités politiques majeures en France et qui connaissez parfaitement le fonctionnement de l'État?
Je pense que la situation au Moyen-Orient ne sera pas calmée tant que le président américain continuera à changer d'avis et à faire la diplomatie par le biais des réseaux sociaux plutôt que par le biais diplomatique traditionnel. Il faut bien sûr souhaiter un accord de cessez-le-feu pour le moins et de paix. Il faut souhaiter pour l'économie mondiale que le détroit d'Ormuz puisse réouvrir, parce qu'on est quand même une situation d'économie mondialisée. Quand le trafic maritime est en panne, c'est toute l'économie du monde entier, l'inflation, etc. qui arrive. Voilà, donc je souhaite qu'il y ait des efforts de paix. L'Europe fait ce qu'elle peut, la France fait ce qu'elle peut, mais on se retrouve avec des interlocuteurs chez lesquels il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison chez les États-Unis. On comprend mal la relation entre Israël parfois et les États-Unis. Il n'y a pas de raison non plus en Iran où les pouvoirs sont nombreux et parfois antagonistes. Voilà, donc c'est tout ça est sur la table. Et je pense que la jeunesse française européenne aspire à vivre dans un monde de paix, comme notre génération a pu vivre après que nos parents et grands-parents aient vécu dans deux guerres mondiales. Et ça n'en prend pas tout à fait la tournure.
Emmanuel Macron avait été critiqué hein, lorsqu'il avait promu la voie de la diplomatie. C'est pourtant ce qui s'est produit. Emmanuel Macron, qui joue un rôle important aussi vis-à-vis du Liban, il a récemment reçu le Premier ministre libanais Nawaf Salam. Sur sa gestion de ces conflits au Moyen-Orient, est-ce que vous saluez l'action du président de la République?
Oui, je crois qu'il fait tout ce qui est en son possible. Ce serait beaucoup mieux si c'était une action coordonnée de l'Union européenne. Alors, il y a des tentatives entre l'Angleterre, l'Allemagne, l'Angleterre qui n'est plus dans l'Union européenne, l'Angleterre, l'Allemagne et la France, de parler d'une seule voix et d'agir d'une seule voix. Enfin, elles sont faibles. Si les 27 parlaient ensemble, c'est même difficile dans le cas de l'Ukraine, ça a été longtemps, jusqu'à l'élection du nouveau Premier ministre hongrois, on aurait certainement plus de poids vis-à-vis des États-Unis. Avoir du poids vis-à-vis de l'irrationalité de l'Iran, ça paraît plus difficile. Puis il faut souhaiter au peuple libanais, hein, qui est un peuple admirable, lié par des liens d'histoire à notre pays, de ne plus vivre au quotidien dans les bombardements, dans l'inflation, dans les problèmes monétaires, dans les problèmes de chômage et de division entre les différents groupes religieux qui composent la société libanaise. Donc voilà, il y a un besoin de paix énorme au Proche et au Moyen-Orient, avec un exemple terrible de pays en difficulté, qui est l'exemple de nos amis libanais.
Vous évoquez la situation au Liban. Vous connaissez bien, Dominique Bussereau, ce pays, le Liban, victime collatérales, si je puis dire, de cette guerre après les frappes du Hezbollah et puis les répliques d'Israël. Comment aujourd'hui la France peut-elle aider le Liban? Elle a annoncé la tenue prochaine d'une conférence internationale pour aider l'armée libanaise. Le danger, c'est une confrontation intérieure au Liban. La marge de manœuvre semble réduite.
La marge de manœuvre est réduite. On peut aider le Liban sur le plan économique. Rodolphe Saadé, SEMA, CGM se sont engagés sur la reconstruction du port de Beyrouth. On peut aider sur le système éducatif, le système bancaire libanais. Ensuite, faire la paix entre les différentes factions religieuses à l'intérieur du Liban, c'est une affaire qui concerne les Libanais eux-mêmes. Il faut qu'ils aient une véritable armée. Ils sont restés longtemps sans gouvernement. Il faut que la valeur de la livre libanaise remonte et que les avoirs dans les banques libanaises soient garantis pour le peuple libanais. Enfin voilà, ça fait beaucoup de souhaits, mais il faut souhaiter bon vent au peuple libanais parce que son martyr est inacceptable.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
Dominique
Bussereau, vous êtes une figure de la 5e République, de la vie politique française. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.